Et aujourd'hui, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, combien ici, à main levée, vous avez déjà côtoyé de près une personne qui était inspirante? Lève ta main si tu as déjà côtoyé de près une personne qui est inspirante, qui t'a inspiré sur un aspect particulier dans la vie. Et lorsque je vivais dans Charlevoix, il y a un moment donné dans ma vie où j'ai décidé que je devais me remettre en forme. Ça arrive parfois, ça m'arrive encore que j'ai l'impression que je dois me remettre en forme. Combien ici vous avez des prises de conscience constantes sur le fait que vous devez vous remettre en forme au moment de confession ce matin? Et je me trouvais comme quelqu'un qui a besoin de se remettre en forme et je me suis lié d'amitié avec quelqu'un qui habite dans Charlevoix qui m'inspirait. Il m'inspirait par sa discipline, son entraînement. C'était un super sportif. Il faisait toutes sortes de sports. Quand je me promenais en voiture, il était toujours dehors en train de faire un sport quelconque. Il faisait de la course. Il faisait aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est des genres de ski de fond, mais à roulettes. OK? Combien vous savez de quoi je parle? Donc, il se promenait comme ça, avec tout habillé en série, là, tu sais, avec la tuque. Puis là, il se promenait comme ça, puis il flyait sur les pistes cyclables comme ça. Il s'entraînait tout le temps. Donc, j'ai commencé à me tenir un peu avec lui. Et c'est un entraîneur privé, entre autres. Et il m'a coaché, il m'a inspiré. Il m'a donné plein de conseils pour la course à pied. Y a-t-il des gens qui aiment la course à pied ici? Oh oui, 4-5 personnes. Oh ouais, on les applaudit. Et il m'a donné des conseils, il m'a coaché. Je suis même allé courir avec lui, donc je courais, il courait à mon rythme, vraiment lentement. Et puis, il me servait de l'eau. Non, c'est pas vrai, mais il me donnait des trucs sur comment progresser là-dedans. Et entre autres, à son contact, j'ai pu me rendre à courir jusqu'à un demi-marathon. On peut aussi appeler ça le jour où j'ai failli mourir. C'est long, tu cours, ça finit plus. À la fin, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de rien. Mais c'est un bel accomplissement quand même. Et quand tu côtoies quelqu'un comme ça d'inspirant, ça te propulse vers l'avant. Le titre de mon message ce matin, c'est « La proximité qui propulse ». La proximité qui propulse. Le but de mon message ce matin, c'est te donner envie, te donner le goût de t'attacher fermement à Jésus-Christ, de devenir proche de Dieu, proche de Jésus comme jamais dans ta vie, afin que tu puisses être propulsé dans la vie, afin que tu puisses accomplir ta destinée. Tu peux dire un premier « Amen », tiens, why not, pourquoi pas. Ceux qui sont ici pour la première fois, des fois on dit « Amen », ça veut dire « Yes, je t'accompagne, je suis là, je t'écoute, je suis partant », ça veut aussi dire « Ainsi soit-il ». Mais bon, alors aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Jean au 15e chapitre et nous allons voir ensemble un texte formidable où Jésus va utiliser le symbole et l'image d'une vigne pour transmettre des vérités bibliques puissantes. Hein, c'est la parabole, c'est pas vraiment une parabole, mais c'est un texte où nous parle du cep et du serment et des raisins, du fruit. Alors le cep, c'est comme le tronc de la vigne, les sarments, c'est les branches, et le raisin, c'est les fruits. Alors je sais que c'est très, très profond, mais vous allez voir qu'il utilise une image que les gens de l'époque connaissaient vraiment bien. Tout le monde à l'époque avait vu une vigne, avait une vigne chez soi, s'était déjà occupé d'une vigne, avait déjà taillé une vigne. C'était comme normal et courant pour les gens de l'époque. Et Jésus utilise des images qu'on peut comprendre afin de simplifier et de rendre vrai et réel pour nous des vérités bibliques qui sont profondes. Donc, on va voir ensemble ce matin, on va lire ensemble dans Jean 15 et on va découvrir des vérités bibliques profondes et puissantes qui peuvent impacter et transformer nos vies. Êtes-vous prêts à ça, à recevoir une parole de Dieu ce matin? Moi, je suis prêt. On peut applaudir, oui. On commence avec Jean 15 et verset 1. « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Alors, Jésus commence avec cette déclaration. « C'est moi qui suis le vrai. » Dites avec moi « vrai ». Jésus est le vrai cep et son père est le vigneron. Et il commence par dire « Je suis le vrai cep », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des faux ceps. Il existe des faux ceps. il existe des faux troncs de vigne. Jésus est le seul qui est vrai, authentique. Il existe des faux cèpes qui sont des déceptions spirituelles, des religions qui vont vous décevoir, des philosophies qui vont vous décevoir. Moi, j'appelle ça des arnaques spirituelles. Il en existe plusieurs. Il en existe plusieurs. Certains parmi vous, vous en avez expérimenté une après l'autre avant de découvrir Jésus, qui est le seul qui peut réellement combler votre vie. Donc, on vit dans une société où c'est très populaire de dire que tout est beau dans les religions, ou plutôt, il y a un petit peu de bon dans plein de religions, puis quand on fait une belle salade, puis qu'on mélange ça ensemble, c'est plein de bonnes affaires. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, « Je suis le vrai cep. » Jésus est en train de dire que le reste est faux, le reste ne t'amènera pas à la vie, le reste... Excusez-moi de le dire comme ça, mais je fais ma job de pasteur, prédicateur et non d'un homme populaire. Le reste, ce sont des arnaques spirituelles qui vont vous décevoir, qui vont peut-être au début créer quelques trucs intrigants, mais que si tu persévères dans les autres mouvements, religions, etc., spirituels, tu vas être vide, déçu et blessé. Je sais que ce n'est pas populaire. Je sais que ce n'est pas une parole que si on dit, que tout le monde va dire « Ah oui, c'est vrai, tu as raison. » Non? C'est le genre de phrase qui peut déranger le monde. Parce qu'on vit dans une époque où chacun a sa vérité. Mais Jésus lui va dire dans Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant que par moi. » Donc Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On vit dans une époque où c'est courant, le pluralisme, c'est-à-dire on s'intéresse à différentes choses en même temps. Jésus va dire, « Je suis unique, je suis le seul Dieu. C'est seulement par moi que tu peux trouver la vie. » Ça peut sembler étroit d'esprit pour certains qui nous écouteraient, mais en fait, c'est extrêmement libérateur. Ce n'est pas étroit d'esprit, c'est de proclamer une vérité puissante qui peut justement libérer ton âme et libérer ton esprit. Tu peux soit être à la mode dans la société et dans l'erreur, ou être à contre-courant, mais être vraiment libre et être vivant. Et aujourd'hui, notre texte commence avec cette déclaration de Jésus, « Je suis le vrai cep. » Et je vais t'inviter dans un instant à t'accrocher à ce vrai cep. Verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et j'ai des petites cachettes ici, là, j'ai emmené des affaires. Je ne vais pas tout sortir tout de suite, je garde des surprises pour tantôt. Mais je n'ai pas emmené la hache que j'ai mise sur les médias sociaux ce matin, ceux qui l'ont vu. J'ai emmené un sécateur, ça fait moins peur un peu que la grosse hache dans l'église, là. Alors, ça, c'est un outil que j'utilise, que les jardiniers utilisent. C'est un sécateur, ça sert à couper des branches. Eh oui. Bon, ben, soyez bénis, bonne semaine tout le monde. Le texte ici nous dit, la branche qui ne porte pas de fruit, on la coupe, on l'enlève. Mais la branche qui porte du fruit, on l'émonde, on vient la tailler afin qu'elle porte encore plus de fruits. Avez-vous remarqué que dans les deux cas, ça implique des coupures? Dans les deux cas, ça implique un outil coupant. Donc c'est sûr, si on ne porte pas de fruit, si tu as une vigne et tu as une branche qui est morte, qui est sec, on fait juste l'enlever. Puis on va en revenir à ça dans un instant. Mais les vignerons, c'est des experts parce que c'est quand même un art dans la taille de la vigne. Ils taillent la vigne de façon à ce qu'il y ait du raisin abondant. C'est ça l'idée, qu'il y ait des grappes qui soient abondantes, mais surtout qui soient grosses. Pas plein de petites grappes tout petites qu'on ne peut pas utiliser le raisin, mais un raisin qui est abondant et qui est massif, qui est d'une bonne taille. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut venir avec son sécateur divin, puis il veut venir couper des... Hein, le son, vous l'entendez? Il veut venir couper des aspects de nos vies qui nous ralentissent, des aspects de nos vies qui nous détruisent, des aspects de nos vies qui nous font du tort, des aspects de nos vies qui nous empêchent de porter du fruit pour Jésus. Il veut venir émonder, certains péchés, certaines mauvaises habitudes. Il veut te faire croître en tant que chrétien. Il veut développer dans ta vie la sainteté, la vérité. Et ça, il fait cela en venant tailler. Combien Dieu a déjà commencé à émonder votre vie, à enlever des trucs qui vous détruisaient? Lève ta main si Dieu a commencé cette œuvre-là dans ta vie. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas fini cette œuvre. Il veut continuer cette œuvre en nous. Il veut épurer notre vie, enlever ce qui a besoin d'être enlevé, afin que nous portions du fruit pour lui. Et dans un instant, on va définir porter du fruit pour lui. J'ai des vignes à la maison. J'ai acheté des tout petits plants qui avaient un an. Et là, mes plants sont rendus à l'année 2. L'année 2 de mes vignes, j'ai une dizaine de vignes, de raisins de table comestibles. Et, comestibles, oui, c'est toujours comestible ou presque. Et c'est pas pour faire du vin. Et cette année, au printemps, là, j'avais une pousse de vignes incroyable. Et je me suis informé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'année 2 avec mes vignes? Et en m'informant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je coupe à peu près 90 % de ce qui avait poussé et que je laisse juste un fouet monter. Là j'étais là, puis ceux qui donnent des cours là-dedans expliquent pourquoi, nanana. Alors, je coupais, puis ça faisait mal au cœur. Il y avait des petites grappes de raisin. Je coupais ça. Mais quand tu fais ça et que tu laisses juste un tronc, dans le fond, une tige montée, ce qui se passe, c'est que cette année-là, l'énergie de la vigne est utilisée pour faire quoi? Pour faire des racines en profondeur. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. Mes vignes sont moins belles qu'elles auraient été si je ne les avais pas coupées avec mon sécateur. Mais ce qui se passe dans l'invisible. Il y a des racines qui se forment. Et l'an prochain, ça va être ma première récolte de raisins. Pour la première fois, là, je vais pouvoir amener la vigne sur un genre de fil de fer comme ça, puis laisser juste quelques branches pour porter, que ça porte du fruit de façon abondante. Jusqu'à ça, je lisais là-dessus, puis ça nous amène jusqu'à 30 ou 40 grosses grappes par vigne à maturité. Mais ça prend, pour se rendre là, de la patience, ça prend des outils, ça prend de la connaissance, et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut développer des racines dans ta vie. Dieu veut enlever des éléments du fluff-là afin que tu creuses ta relation avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu portes du fruit. On va le voir dans un instant. Dieu est glorifié quand on porte beaucoup de fruits. C'est ça que le texte veut nous dire dans un instant. Et pour cela, ça prend de laisser Dieu venir émonder notre vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux enlever? Qu'est-ce que tu veux tailler dans ma vie? Devrait être une de nos prières. Est-ce que je peux entendre un amen? Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à demeurer en lui. Et ce matin, j'ai fait peur à ma femme parce que j'ai sorti la hache de chez nous et j'ai coupé une branche pour illustrer mon propos. Alors, et non, ce n'est pas une vigne. Je vais essayer de ne pas péter rien au plafond, faire partir des gicleurs ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai coupé ça ce matin, ma femme est sortie. « Ça va-tu, c'est-tu correct? » Oui, oui, je coupe une branche pour mon illustration d'église. Donc ici, j'ai une branche. Et cette branche-là, bien sûr, elle a été coupée aujourd'hui par moi-même. Et oui, j'ai fait ce grave péché à la nature. Et c'est pour illustrer mon point ce matin. Ces feuilles-là ici aujourd'hui ne pourraient pas vivre, ne pourraient pas subsister, se développer et exister sans que cette branche n'ait été attachée au tronc. Vous me suivez? Cette branche-là pourrait bien se dire, « Ah, je vais produire des feuilles, je vais produire des fruits, puis se forcer comme ça. » La seule chose que cette branche-là a besoin pour être vivante, là, c'est sûr, elle s'en va vers la décrépitude tranquillement, mais cette branche-là, la seule chose qu'elle a besoin, c'est d'être attachée au tronc. Il n'y a rien d'autre qu'elle a besoin. Parce que lorsqu'elle est attachée au tronc, elle est connectée justement au tronc, à l'arbre, et les racines, comme vous le savez, je ne vais pas vous donner un cours en profond sur tout ça, mais les racines vont capter l'humidité, les nutriments tout ce que l'herbe a besoin qui est dans le sol, elle va le capter et par la sève, elle va le faire monter cela à chaque branche pour le développement des feuilles et des fruits. Donc, tout ce que la branche a à faire pour produire des feuilles et des fruits, c'est d'être attaché au tronc. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous, on essaie de faire mieux. On essaie d'être meilleur. On essaie de se départir de péchés, de problèmes. On fait des efforts pour évangéliser. On fait des efforts, on bouge. Mais en fait, la seule tâche que tu as qui va vraiment produire un fruit, c'est celle de demeurer en Jésus. C'est celle d'être attaché à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. D'être en lui et lui en toi. Quand on enlève une branche comme ça d'un tronc, c'est difficile de différencier quel bout est du tronc, quel bout est de la branche. C'est interconnecté. Les fibres sont interconnectées, interreliées. Et lorsqu'on est connecté avec Jésus, c'est ce qui se passe. On se connecte à lui, on est proche de lui, et alors qu'on est proche de lui, la vie de Dieu coule en nous et nous amène à porter du bon fruit pour le royaume. Je vais la laisser ici. Je vais y revenir dans un instant. C'est ce que Dieu veut faire. Comment on fait pour demeurer en Jésus? Comment on fait pour rester attaché à lui? Vous savez, ça se passe par une communion avec lui. Ça se passe par la prière. Ça se passe par une vie d'intimité avec Christ. Oui, l'Église est bien. Oui, la lecture de la parole est bien. Ce sont des exercices spirituels puissants. Mais c'est alors qu'on est connecté par la prière, dans sa présence, qu'on reste proche de lui et que ses paroles coulent à travers nous, son amour coule à travers nous. Aujourd'hui, je veux t'inspirer, je veux t'appeler, je veux t'inviter de tout mon cœur à renouveler ta vie de prière, à renouveler ta vie de connexion avec Jésus. Oui, à prendre un moment avec Jésus à chaque jour de ta vie, quelques minutes, une demi-heure, peu importe, de prière, mais aussi à être connecté avec lui en tout temps. Dans ta voiture, quand tu fais la vaisselle, quand tu es chez vous à la maison, peu importe, quand tu es au travail, d'avoir ces moments dans ton cœur où tu te connectes à lui, où tu es proche de lui. De demeurer en Jésus, c'est d'avoir faim de lui, d'avoir soif de lui. Est-ce que tu désires plus de Jésus dans ta vie? Est-ce que cette faim spirituelle qui t'habite pour plus de Christ, plus du Seigneur dans ta vie? Et alors que par cette faim, tu nourris cette faim en allant dans sa présence, en allant dans la louange, dans la prière, la vie de Dieu va couler à travers toi. Et tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Dieu veut faire cela en nous. Mon prochain point, c'est ne sois pas une plante en plastique. Je me dis, où est-ce que je pourrais trouver ça, une plante en plastique? Et je me suis rappelé que dans le bureau du deuxième pasteur, pasteur Will, il y avait une plante en plastique dans son bureau. Et la voici, la voilà. Elle est belle, hein? Belle plante en plastique, comme ça. Il y a des chrétiens qui sont comme des plantes en plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de loin, ils ont l'apparence d'un chrétien. De loin, on pourrait s'y méprendre. Vous êtes d'accord que de loin, ici, ça peut avoir l'air d'une vraie plante. Mais là, je vous l'ai dit, j'ai volé le punch un peu. Mais le Seigneur nous appelle à vivre une relation authentique avec lui. Et j'ai un texte ici qui nous met en garde, justement, de ne pas devenir quelqu'un de superficiel dans notre vie chrétienne. De ne pas juste avoir l'apparence d'un chrétien, mais d'être des vrais de vrais. D'être des authentiques chrétiens. Attaché à Jésus. Et voici le texte dans 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, venteurs, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il existe un type de chrétien dans les temps de la fin, qui n'est pas connecté à Jésus, mais qui a l'apparence de la piété, qui peut peut-être fréquenter l'Église, qui peut peut-être se nommer chrétien, qui peut peut-être débattre sur Facebook d'enjeux chrétiens, qui peut peut-être avoir l'air de quelqu'un, peut-être qu'il y a une croix sur son char ou un petit poisson sur son char, en arrière de son char. Son char, c'est drôle, c'est fun à dire. Mais en réalité, il y a juste Dieu qui le sait, il y a juste Dieu qui le voit si cette personne-là a une connexion réelle avec lui. Moi, ce matin, je t'appelle à fuir tout ce qui est superficiel. On ne veut pas jouer aux chrétiens. On ne veut pas jouer aux disciples. On veut vraiment se connecter à Jésus. On veut que ça soit réel, authentique, personnel, vrai en public, vrai en privé. Vrai quand personne ne nous voit. Un amour pour Christ, une connexion avec le Seigneur. Alors, j'ai pris ce matin, si tu te rends compte que tu as besoin de profondeur dans ta vie chrétienne, tu es à la bonne place. L'amour de Dieu est là envers toi. Et c'est le temps pour toi aujourd'hui de te connecter à Jésus, de te lier à Christ, de t'approcher de lui. Amen. Le verset continue au verset 6. Ça dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et Jésus, dans la Bible, à plusieurs reprises, nous parle de l'enfer, nous parle de cette destinée éternelle qui existe, qui est réelle, qui est là. Et c'est juste, le but, c'est pas de faire peur à personne, mais c'est de nous rappeler que le seul moyen pour la vie, c'est de s'accrocher à Jésus. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est le salut en Jésus-Christ. Et ce texte nous le rappelle. Et je prie aujourd'hui qu'il n'y ait personne ici qui soit déconnecté de Christ. Que personne ici ne soit loin de Jésus. Le verset 7 nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quel texte, wow! J'appelle ça un texte « wow ». Et ici, l'idée, c'est qu'une proximité avec Jésus qui propulse nos prières. Et j'avais cette image en tête alors que je lisais ce texte. J'avais cette image de quelqu'un qui marche dans la rue et qui croise un homme qui est public et qui est publiquement riche, que tout le monde sait que c'est un multimillionnaire. Et là, toi, tu ne le connais pas. Sinon que tu ne connais pas personnellement, mais tu sais qu'il est vraiment, vraiment riche. Donc là, tu as des problèmes financiers, comme 99 personnes sur 100. Et là, tu vas voir cet homme riche-là, puis il se donne une bine sur l'épaule. « Hey, salut mon chum! Comment ça va? Hein? Ça va bien? Comment va ta Lamborghini? Ça va bien? Ah, super, puis ta maison? Écoute, je te dis ça de même. Tu me passerais-tu un peu d'argent? Tu me donnerais-tu un peu d'argent? » Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à ce personnage-là? Il va se faire revirer de bord. Il va se faire dire, écoute, je ne te connais pas vraiment. Je vais continuer mon chemin. Tu devrais continuer ton chemin toi aussi. C'est ça qui va arriver. Il ne va pas recevoir une scène de cette personne qui a beaucoup de cash, qui est riche, de cette personne qui a toutes les ressources possibles. Il va se faire revirer de bord parce que ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de lien. Ils n'ont pas d'amitié. Il ne veut rien dire pour l'autre. Par contre, si on prend cette même personne qui est riche, qui a des biens, qui a de l'argent, etc., et que sa fille vient le voir, sa fille adorée qu'il aime, sa fille adorée avec qui il entretient une superbe relation de père-fille depuis des années, sa fille qui est travaillante, sa fille qui fait son best dans la vie. Et si sa fille qui l'aime vient vers lui et lui demande une ressource quelconque pour un projet ou peu importe, laissez-moi vous dire qu'il y a des bonnes chances que le papa dise oui. Pourquoi? Il y a un lien spécial. Il y a une connexion spéciale. Il y a un lien de parenté, il y a une connexion, il y a le lien père-fille qui est vraiment fort aussi, ça peut être père-fils aussi, et il y a ce lien-là, il y a cette connexion-là, donc la personne qui a ses ressources va être facilement généreuse envers sa fille ou envers son fils. Et moi, j'avais cette image-là de la vie chrétienne, c'est que des fois, On n'est pas du tout connecté à Jésus, puis on fait juste lui demander qu'il fasse des affaires. Suivez-vous? Ah, Seigneur, alors, règle-t-il le problème dans ma vie? Mais là, on passe notre vie sans lui, sans s'intéresser à lui, sans s'intéresser à sa parole, sans avoir de l'amour pour lui. On fait juste lui demander des affaires une fois de temps en temps, puis on se demande pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière. Dieu veut une connexion avec toi. Dieu veut que tu sois intéressé plus à ta connexion avec lui qu'à ce qu'il peut te donner. Êtes-vous là aujourd'hui? Dieu veut cette relation d'amour et d'intimité avec toi. C'est ça qu'il veut. Et lorsque nous aussi, on veut ça, cette relation d'intimité avec lui, et que c'est le désir de notre cœur, laissez-moi vous dire que Dieu va répondre à des prières que vous n'avez même pas faites. Dieu va intervenir de façon puissante dans votre vie, à des moments appointés. Il va savoir vos requêtes avant même que tu les élèves. Pourquoi? Parce que tu vas être connecté à lui. Parce que ton cœur ne va pas être pour ses biens, mais pour son cœur, pour sa personne, pour cette relation avec lui. J'écris cette petite phrase ici. C'est lorsque votre connexion intime avec Jésus, est-ce que vous chérissez le plus, que vos requêtes et prières ont le plus d'impact? Donc, en d'autres mots, misons sur la connexion avec lui. Puis après ça, quand on prie, il se passe de quoi? Combien vous l'avez expérimenté? Combien vous avez vécu ça? Proximité avec Jésus, puis Dieu intervient dans votre vie d'une façon que vous n'avez même pas osé demander des réponses à des prières. Dieu veut faire ça dans ta vie ce matin. Dieu veut agir de cette façon-là. Verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et ici, une équation vraiment intéressante. Porter beaucoup de fruits, selon le texte, selon Jésus, selon la Bible, porter beaucoup de fruits est égal à être un vrai disciple. Comment tu reconnais un disciple de Christ? Est-ce qu'il porte beaucoup de fruits? C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai disciple. C'est ça que la Bible dit. C'est ça qu'on vient de lire ensemble. Un vrai disciple, encore une fois, je prends l'exemple de la plante de plastique, je prends l'exemple de la personne qui est plutôt superficielle. Un vrai disciple, ce n'est pas quelqu'un qui dit de lui qu'il est un disciple. Ce n'est pas quelqu'un qui fréquente nécessairement une église. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'apparence. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. Voici à quoi ressemble un vrai disciple. J'entends vos questions. Mais comment, c'est quoi porter du fruit? On peut définir ça comment? On pourrait le définir de plein de façons, l'appliquer à toutes sortes d'aspects de la vie. Je voulais juste deux textes qui peuvent un peu nous conduire, nous guider de base. Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Nous sommes en ce moment dans l'attitude d'un disciple. Éphésiens 2, 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. » Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Et être un disciple qui porte beaucoup de fruits, ça se voit dans notre attitude et ça se voit aussi dans nos actions. On pourrait inclure aussi nos paroles que j'inclus dans nos actions. En d'autres mots, ça paraît. Ça paraît quelqu'un qui est un disciple de Christ. Ça paraît dans son caractère. Ça paraît dans sa façon dont il se conduit. Ça paraît dans son vocabulaire, ça paraît dans ses actions, dans ses bonnes actions. On peut reconnaître un disciple de Christ. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de fruits. La question que je me pose aujourd'hui, que je nous pose, est-ce que nous portons beaucoup de fruits? Est-ce qu'on porte du fruit comme chrétien? Ça paraît-tu vraiment qu'on est des disciples de Christ? À quel point ça paraît? À quel point ça paraît? Mes voisins, ils savent-tu? Est-ce que les gens à mon travail le savent que je suis un disciple de Christ? Est-ce que ça paraît dans ma famille que je suis un disciple de Christ? Est-ce que ça paraît, est-ce que je porte du fruit? Combien vous aimeriez dire avec moi, j'aspire à porter plus de fruits? Lève tes deux mains. J'aspire à porter plus de fruits. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de, la façon que je vis pour toi. Je veux grandir, je veux avancer avec toi. Je veux que tu m'émondes, que tu me changes, que tu me transformes, que tu coupes des trucs dans ma vie. J'aspire à être un disciple authentique et apporter plus de fruits. C'est mon cœur, c'est mon désir, c'est ma prière. Je veux être ce disciple authentique qui porte plus de fruits. Je veux que ça paraisse autour de moi. Je veux que ça soit vrai, que ça soit réel. On arrive déjà à la fin du message. Dans un instant, on va prier ensemble. Les musiciens, vous pouvez déjà revenir. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Porter du fruit pour le Seigneur, ça implique notre attitude, ça implique nos actions. Mais je pense que le plus grand trait de caractère, le plus grand trait distinctif d'un disciple de Christ, c'est l'amour. Les gens qui nous font penser le plus à Jésus sont les gens qui aiment le plus. Avez-vous déjà remarqué ça? Pensez à quelqu'un qui vous fait penser à Jésus. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui est plein d'amour, d'humilité et d'amour. Moi, j'ai des idées en tête de personnes qui me font penser à Jésus. C'est des gens qui aiment les autres, des gens qui aiment d'une façon spéciale, d'une façon que humainement, c'est pas normal. Humainement, c'est pas normal d'aimer comme ça. Il y a quelque chose avec ce gars-là, il y a quelque chose avec cette fille-là. Elle a un amour qui se dégage de sa vie d'une façon pas normale. Moi, c'est ma prière pour ma vie. C'est ma prière pour notre Église. Qu'on soit une gang de personnes là, qui dégageons l'amour de Christ. Qu'on dégage l'amour de Jésus dans la façon qu'on se traite les uns les autres, dans la façon qu'on s'occupe les uns des autres, dans la façon qu'on s'accueille les uns les autres, dans la façon qu'on aime les gens autour de nous. Je prie. Qu'est-ce qui caractérise l'Église Nouvelle Vie de Romanville, c'est l'amour. Faut que ça soit l'amour. Faut que ça soit l'amour de Dieu. Faut que ça soit l'amour de Christ qui jaillit de notre cœur. Pourquoi? Parce que nous, on va rester connectés à lui. Nous allons être cette vieille branche qui reste accrochée au tronc. Coûte que coûte. On va rester attaché à Jésus dans la prière, dans sa présence. Puis alors qu'on reste attaché à lui, on va porter du fruit. On n'aura pas besoin de forcer le fruit, on va juste porter du fruit parce qu'on reste attaché à la source de la vie. C'est ça, Jean 15. Et je termine avec un dernier texte dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle d'amour, justement. Je lis juste les premiers versets. Ceux qui ont vu cette semaine, il y avait une courte vidéo que j'ai faite aussi à Nouvelle Vie, un café matinal où je parle d'amour. Et je reprends un des versets. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis du cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On pourrait continuer, c'est un chapitre magnifique, mais le point est le suivant. Peu importe ce que tu as d'extraordinaire dans ta vie, peu importe les dons, les talents, les accomplissements, peu importe ce qui brille dans ta vie, si tu n'as pas l'amour, tout ça n'est rien. C'est ça que dit la parole de Dieu. Et moi aujourd'hui, en terminant cette réunion, mon cœur, ma prière, c'est que Dieu nous touche, que Dieu nous donne son amour, que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu vienne peut-être et émonder certaines parties de notre vie qui ont besoin d'être transformées. On a vu ce matin, dans cette prédication, la proximité qui propulse. On a vu ce matin, Jésus, c'est l'authentique. On a vu également qu'on est soit retranché ou façonné. Nous avons parlé de demeurer en Jésus. On a vu également ne sois pas une plante en plastique. On a vu qu'il n'y a pas d'espoir sans Jésus. Mais qu'une proximité avec Jésus, c'est ce qui nous propulse dans la prière. Et que Dieu nous appelle à porter beaucoup de fruits, ce qui est la même chose qu'être un disciple authentique de Christ. Et on a terminé en parlant de demeurer dans son amour. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ce matin dans la présence de Dieu en terminant cette réunion? Dans un instant, on va chanter un chant pour nous approcher de Dieu. Mais alors qu'on est tous debout dans sa présence, je t'invite à fermer les yeux un instant et commencer à sonder ton cœur. Commencer à sonder ta vie, à analyser ta vie et à voir j'en suis où dans tout ça ce matin. Est-ce que je suis une plante en plastique? Est-ce que j'ai besoin de me connecter à Jésus pour de vrai, pour de bon? Est-ce que je porte du fruit? Quel est mon niveau d'amour pour les autres autour de moi? Est-ce que je suis un disciple de Christ? Ce matin, pose-toi les questions pour toi-même, pour ta propre vie. Pas pour les gens qui t'entourent, mais pour toi-même. Seigneur, j'en suis où? J'en suis où dans ma vie de prière? J'en suis où dans ma connexion avec toi, Jésus? Pose-toi ces questions ce matin. Et là où tu es à ta place, je t'invite à commencer à prier. Prie ce matin. Abandonne ta vie à Jésus ce matin. Abandonne ton cœur à Jésus ce matin. Peut-être que tu vas dire, Seigneur, viens émonder, viens tailler des aspects de ma vie qui ont besoin d'être transformés. Peut-être que tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être plus connecté à toi dans ma vie quotidienne. Aide-moi à intégrer la prière dans ma vie. Aide-moi à porter davantage de fruits dans mon attitude, dans mes actions, dans l'amour qui inonde mon cœur. Pour les prochaines minutes, je t'invite à prier et également à chanter, à louer Dieu, à t'approcher de lui. On va transformer ce lieu en un lieu de prière. Avant qu'on se quitte, avant qu'on se laisse, prenons le temps avec Jésus ce matin.